Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shapeology, podcast dédié au surf, aux planches et au métier du shape. Aujourd'hui, on est avec Catherine Girard, shapeuse d'origine québécoise installée à Palm Beach en Floride. Elle nous parle de son histoire, de son apprentissage privilégié avec Greg Talley en Californie et de son activité actuelle en Floride. Elle nous parle ensuite de ses planches, principalement longboard et planches alternatives, et de comment elle les adapte aux spécificités des vagues de Floride. On parle aussi de handshape, de l'évolution du métier en Floride, de l'empreinte carbone des planches. Enfin, Catherine partage avec nous son expérience du milieu du shape en tant que femme. Pensez à passer sur notre compte Instagram shape.ology et sur notre site shapeology.fr pour retrouver tous les liens et photos de l'épisode. Et maintenant, place à Catherine. Bonne écoute. Alors, première question, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Mon nom, c'est Catherine Girard. Je suis québécoise et j'ai déménagé aux États-Unis il y a 9 ans. Et j'ai 27 ans.
Ok. Tu as découvert le surf au Québec ?
Non, malheureusement, j'ai commencé à surfer quand je suis déménagée en Floride. Ma mère vivait ici déjà. Alors, quand j'avais 19, j'ai décidé, je vais essayer la Floride. Alors, je suis partie du Québec et je suis déménagée avec ma mère en Floride. Et c'est pas à temps que je commence à faire du sauvetage de plage, Ocean Lifeguard. Mm-hmm. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à surfer. J'avais nagé compétitivement toute ma vie. Alors la nage, c'était quoi de naturel, mais c'est sûr que nager dans une piscine, c'est complètement différent que nager dans l'océan. Mais je trouvais que c'était un beau défi, alors j'ai appliqué et j'ai vu que tout le monde le matin surfait. Parce qu'on avait comme des entraînements le matin, de 8h à 9h avant d'ouvrir les tours. Alors, on pouvait courir, on pouvait nager, on pouvait surfer si les vagues étaient là. Puis un matin, j'étais une des seules filles sur l'équipe, fait que tous les garçons sont sortis avec une planche. Là, j'étais comme, je vais essayer. Ouais. Alors, j'ai pris un rescue board, une planche de rescue de 12 pieds, puis je suis sortie, puis depuis cette journée, je suis concentrée sur le surf.
Et t'es retournée au Canada surfer et tout?
Non, pas encore, mais je planifie bientôt faire soit Tofino, qui est sur la côte ouest, okay, ou faire la Nouvelle-Écosse, qui est sur la côte est.
Ça a l'air assez fou quand même.
Ouais, c'est sûr que c'est des heavy, des quand même des bons wetsuits.
Ouais. c'est sûr.
Pour surfer au Québec, au Canada. Vivant en Floride,
ben oui,
j'aime tellement ça, surfer des vagues tropicales.
Ouais, c'est sûr.
Fait que Costa Rica, ça a été plus le surf trip que j'ai fait dans les dernières années. Où Californie, c'était comme le seul endroit que j'ai surfé qui faisait vraiment froid. Je pense que j'ai acheté mon premier wetsuit il y a peut-être 4 ans, parce que je suis déménagée en Californie. Ben, où je suis en Floride, t'en as pas besoin. À 4 heures au nord de la Floride, oui, certainement Saint-Augustin puis Jacksonville, mais toi, envers Miami, l'eau est quand même assez dans les 80 Fahrenheit.
Ouais.
C'est assez chaud.
Et du coup, t'es où exactement, toi?
Je suis à Palm Beach. C'est à 1h30 de Miami, 1h de Fort Lauderdale au nord. La raison pourquoi on n'a pas tant de vagues aussi ici, c'est parce qu'on est bloqué par les Bahamas. Ouais. Fait que on est comme vis-à-vis les Bahamas.
Et ouais. C'est comment le surf là-bas?
Ben, c'est ça la chose. C'est en Floride, quand c'est bon, t'es en maillot de bain, l'eau est claire, tu vois à travers tous les poissons, tout le monde est dehors. Parce qu'il fait tellement beau. Puis normalement, c'est dans la saison de l'hiver qu'on a des vagues. Fait que c'est pas aussi chaud que l'été. Fait que c'est comme la température idéale pour surfer. Fait que, oui, quand on a des bons swells, c'est extraordinaire. Wow. Mais c'est aussi l'énergie de tout le monde qui... Wow! Les vagues sont... Tout le monde est avec leur planche de surf dans l'eau quand il y a des vagues.
Et du coup, concrètement, c'est quoi, t'attends 2 mois, 2 semaines ou 2 jours entre des swells?
Des fois, ça peut... Ben, surtout ce temps-ci, là, on est quasiment... On vient de finir la saison des ouragans, fait que c'est à peu près tous les jours tu peux surfer quelque chose, mais c'est plus... je sais pas comment le dire en français, c'est du wind chop. C'est comme des vagues qui sont générées par le vent. C'est pas du swell. Pas mal dans ces temps-ci de l'année, on a beaucoup de wind chop. Je pense que c'est envers Noël là, qu'on commence à vraiment avoir comme des ground swell. C'est ce que moi, je recherche un peu plus, là, comme des clean, surtout en vivant en Californie pendant 2 ans. C'était difficile de retourner en Floride et de pas avoir la même qualité de parfait point break tous les jours. Ouais. C'est en Californie, tu peux surfer 3 à 4 quasiment tous les jours.
Ouais.
Ici, c'est un peu plus rare.
Alors, est-ce que tu peux me raconter justement ce que tu me dis que t'es arrivé à 19 ans en Floride, si j'avais bien compris?
Ouais.
Et t'es parti en Californie après?
Ouais, mon ex-copain et moi, on a acheté un campeur.
Ouais.
Puis on était toutes les deux des surfeurs, fait qu'on était comme ok, on va aller essayer la Californie. Moi, c'était ma première fois, j'étais jamais été. Puis mon copain à ce temps-là, il connaissait quand même bien la Californie. On est arrivé à Encinitas et dans le coin de San Diego. Et après, on a décidé de rester à Ventura. On a fait comme toute la côte de la Californie, mm-hmm. puis on voulait voir quelle ville qu'on aimait le plus. Puis on a surfé un soir, le premier soir à Ventura, on a surfé Rincon. C'était un coucher de soleil incroyable. Alors on était comme wow,
ouais.
C'est ici qu'on veut rester. Puis je me mêle dans mon français. On a pu rencontrer plein de gens.
Ouais.
Super gentils, intéressants. Fait qu'on sentait déjà qu'il y avait comme une bonne communauté.
Ouais.
À Ventura. C'est pour ça qu'on était comme on va essayer ici. Okay. Puis on est resté là 2 ans.
Et du coup, après, retour en Floride?
Ouais, retour en Floride, juste avec le COVID, c'était vraiment difficile en Californie.
Mm-hmm.
Puis la Floride était quasiment pas affectée par décider de pas avoir aucun effet sur le COVID. Alors c'était comme plus facile pour nous de vivre en Floride aussi avec nos familles, puis tu sais, l'inquiétude de nos parents.
Ouais, bien sûr. Et comment est arrivé le Shape dans l'histoire, du coup?
Je travaillais dans un café à Santa Barbara quand j'étais en Californie. J'avais un client tous les matins qui venait vers 7 heures. On ouvrait à 7 heures. Puis il attendait qu'on ouvre la porte tous les matins pour venir chercher un matcha. Puis il avait vraiment les cheveux longs, un monsieur d'un certain âge, puis il était tout le temps en short, peu importe comment froid il faisait dans l'hiver. Mon boss au café me dit, Catherine, tu devrais lui parler. Greg, c'est un vraiment bon surfeur puis un shaper. Fait que là, j'ai commencé comme à lui parler de surf et comment c'était dans les années 60 vivre à Santa Barbara et grandir en Californie. Fait que lui, il avait grandi à Montecito, qui est comme la ville à côté de Santa Barbara, sur un ranch. Puis il avait commencé à faire des planches dans le garage de ses parents quand il avait 12 ans. Puis il avait grandi avec Rennie Yater et George Greeno. Puis toutes des histoires vraiment fascinantes pour moi, des moments comme des personnes historiques dans le monde du surf. Puis on a commencé comme juste à parler toutes les fois qu'il était là le matin. Puis un jour il me dit que il allait redéménager à Hawaï parce que sa mère était hawaïenne. Puis il allait vendre sa maison à Santa Barbara. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il me dit c'est la dernière opportunité que j'ai pour partager le shaping, parce que il pouvait plus shaper Greg à ce moment. Ses yeux, sa vision était plus la même. Fait que c'était vraiment dur pour lui, sa balance aussi. Fait que des raisons médicales qu'il pouvait plus shaper. Puis il était à un certain âge qu'il avait déjà fait quand même une grande carrière dans le surf, puis avec les planches de surf. Alors, c'était comme un cadeau pour lui de partager ça une dernière fois. Il avait aidé beaucoup Ryan Lovelace avec les planches quand lui a commencé à Santa Barbara. Puis c'est ça, il m'a offert, il m'a dit « Catherine, veux-tu savoir comment faire une planche? » Alors, j'ai dit oui.
Et t'es resté longtemps?
On a fait un an de planche ensemble. C'est quand même un bon bout. Il faisait le glassing dans son garage. Puis après ça, en arrière de sa maison, il y avait la petite shaping bay qui avait fait tout petite. Elle devait être 9 pieds de long, ce qui est quand même pas très grand pour faire des longboards. Il m'avait dit la raison que j'ai fait ça, c'est parce que je voulais plus jamais voir un longboard de ma vie, parce qu'il y a vraiment shapé beaucoup de shortboard, tu sais, il a fait partie comme de la shortboard la révolution du shortboard.
Oui.
Fait qu'il avait dit plus jamais je vais faire un longboard de. Fait qu'à cause de ça, ben c'est pour ça que la shaping bay était vraiment tout petite. Par chance, il y avait une porte vers l'arrière. C'est pour ça que j'ai été capable de faire ma première planche avec lui qui était un 9-4. On a été capable d'ouvrir la porte par l'arrière pour rentrer la planche. Vraiment old school.
Ouais, et du coup, c'était quoi? Tu bossais pour lui ou c'était t'y allais après le boulot, en gros? Tu passais ton temps là-bas?
Ouais, après le boulot, mes journées de congé, je passais la journée là-bas. C'est ça, j'ai commencé, moi, faire ma première planche. Puis moi, je pensais que ça allait finir comme ça. Puis Greg était vraiment encourageant. Il était comme « Catherine, t'as vraiment de la facilité avec le planer. J'ai enseigné à beaucoup de personnes. » Puis je pense qu'il aimait aussi m'avoir autour. T'sais, pour lui, il était retraité. Fait que c'est un beau passe-temps pour lui de m'apprendre puis passer du temps avec moi dans la Shaping Bay puis partager sa passion. Alors, il m'a dit, veux-tu faire une deuxième planche? Fait que j'ai fait un fish. Je pense que j'ai fait un six-show fish. Puis, après ça, j'ai commencé à avoir des commandes.
Okay.
Mais là, c'est sûr que le syndrome d'imposteur était très, très présent à ce moment-là. Mais Greg était comme, me dit, je vais t'aider. Jusqu'à temps que tu sois vraiment confortable avec tout, je vais rester sur mon petit banc dans le coin, puis si t'as besoin de moi, je suis là.
C'est génial, mais du coup, c'est l'apprentissage de rêve un peu, quoi.
Ouais, ben sérieux, quand des personnes m'écrivent sur Instagram, « Ah, je veux apprendre à shaper et tout », sais, je recommande toujours d'avoir quelqu'un qui a déjà l'espace avec tous les outils pour commencer. Ouais. Puis en plus, Greg avait, il avait comme une pile de 30 Clark Foam dans le garage, comme jaune, qu'il n'avait pas utilisé, qui était assis, ça faisait une vingtaine d'années.
Ouais. Alors que c'est collector maintenant, les Clark Foam.
Ouais, il m'avait dit, ouais, genre, Catherine, you can take this one, y a pas de problème, tu peux prendre le Clark Foam. Puis moi, à ce moment-là, j'avais aucune idée c'était quoi. Ouais, j'aurais pas pu demander mieux. Il était à 5 minutes de mon boulot. Alors, tous les jours, je finissais vers midi ou 1 heure. Et l'après-midi, jusqu'au soir, des fois, je travaillais chez Greg.
Et ouais. Tu glaçais un peu là-bas ou c'était que le shape?
Non, c'est tout parce que Greg, il me dit, si tu veux être un vrai shaper, il faut que tu apprennes tout, toutes les étapes. C'est très important. Fait que j'ai dit OK. Puis moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais avec la fibre de glace. J'avais aucune idée. Fait que c'était complètement tout nouveau. Jamais je me suis réveillée un jour dire « Ah, je vais commencer à shaper. Okay. » Ça a juste vraiment été de Greg qui... Je me suis dit « Je peux pas dire non. »
C'était la rencontre qui a fait le déclic, quoi.
Exactement.
Il y a un moment où tu t'es dit « Maintenant, je vais faire que ça? »
Non, parce que je le fais toujours pas à temps plein. J'ai 4 jours de congé de mon autre job.
Et c'est quoi ton autre job, du coup?
Je suis encore sauveteuse. 3 jours semaine. Juste parce que ça me garde en forme, puis la plupart du temps, quand je suis en brique, je peux surfer. Fait, je suis comme le meilleur des deux mondes. Je peux surfer quand je travaille, puis...
Ouais, c'est génial.
Après ça, quand je suis en train de shipper, des fois, je vais surfer le matin, puis après, aller au shipping bay le reste de la journée.
Alors, du coup, j'ai sauté une étape parce que je suis passé de la Floride, de la Californie à maintenant. Donc là, après, tu t'es séparé, entre guillemets, de Greg, enfin, en rentrant en Floride.
Ouais, lui, il est déménagé, je pense, lui, il est déménagé à Hawaï en premier.
D'accord.
Je suis retourné en Floride, puis j'ai continué de faire les planches. Je pensais pas être capable, mais j'avais un ami dans mon coin. Mm-hmm. Qui avait un shaping bay.
Okay.
Alors, j'ai commencé à shaper là. C'était vraiment... c'était très gentil de me laisser shaper dans son espace, mais il n'y avait comme pas d'air climatisé. Il y avait beaucoup de planches partout pour les ding repairs. Fait que c'était vraiment difficile dans cet endroit de travailler pour moi.
Ouais.
C'est quasiment impossible, surtout avec la fibre de glace. C'était très, très difficile de passer à faire de la fibre de glace, en Floride quand il fait 100 degrés tous les jours avec l'humidité. J'ai été obligée de rater beaucoup de choses, faire beaucoup d'erreurs pour comprendre le catalyste. Mais ça m'a appris beaucoup, beaucoup. Dans mon shaping, puis c'était aussi d'essayer de pas appeler Greg chaque planche ou dès que j'avais un problème de pas paniquer, puis de pas je pense pour ça que la plupart des shapers commencent soit par le glace ou soit par le shape, parce que la courbe d'apprentissage est énorme. Surtout avec les shots que j'ai vus de surf, tu commences à faire des hot coats seulement. Alors, tu fais des hot coats pendant 3-4 ans, tu deviens vraiment bon à faire du hot coat, puis après, tu peux commencer à faire du sanding. Puis après, tu commences un autre task. Mais moi, j'ai vraiment commencé la montagne là, qui finissait plus d'apprentissage.
Ouais, ouais.
Même encore aujourd'hui, des fois, c'est certaines techniques aussi, j'ai pas appris de Greg. Greg, ça faisait quand même longtemps qu'il avait pas travaillé dans un dans un factory, où que la production, c'est la numéro un. C'est beaucoup de trucs avec le glaçage aussi, comme j'entendais aussi le podcast avec Tristan, de le tape, certains tapes ou certaines humidités. C'est tellement de variables qui va dans la fibre de glace que c'est juste en le faisant simplement que tu apprends tes erreurs, malheureusement.
Et aujourd'hui, tu as des... Parce qu'avec ton boulot et tout, en tant que sauveteuse, tu dois être un peu implantée dans le milieu surf à Palm Beach.
Ouais, ben c'est ça. Ça faisait quand même assez longtemps que j'avais vraiment une bonne communauté de surf ici, même avant la Californie. Fait que quand je suis revenue, ben la communauté a été vraiment beaucoup de support pour mes planches. Vraiment. Puis je pense que tu sais la communauté ici, on regarde tellement la Californie comme la mecca du surf. En apprenant de Greg en Californie, ça donnait, je pense, un peu de crédibilité. Parce que si j'avais commencé dans mon garage, peut-être ça aurait été un peu différent.
Du coup, maintenant, tu travailles comment? T'as ton atelier? Comment ça se passe?
Oui, ben, en ce moment, je partage avec le glaceur que j'utilise. Ça fait à peu près 6 mois. J'essaie vraiment de me battre pour continuer de faire la fibre de glace. Mais malheureusement, tous les shops de glace ont fermé depuis le COVID dans mon coin.
Ah oui?
Fait que tout a fermé. Puis après avoir un logement commercial, avec le COVID, on a eu les gens de la Californie, les gens de New York, un peu partout dans les États-Unis qui sont déménagés en Floride. Alors, tous les prix, surtout commerciaux, sont augmentés. Puis, la fibre de glace aussi, c'est pas un endroit que tu peux... C'est pas juste une place où tu peux faire ça n'importe où. Parce que surtout avec le poly... la résine. Il n'y a pas grand personne qui veut ça près de leur commerce. Très toxique, alors c'est ça. Puis même pour les blanks, je suis à 2 heures du US Blanks pour aller chercher mes matériaux. Puis après ça, la fibre de glace, j'étais à 1 heure. Fait que ça faisait comme 4 heures aller-retour pour aller chercher un blank. Ou aller chercher, tu sais, manquer de catalyste et devoir conduire 2 heures pour aller en chercher. Ça s'est devenu comme un peu inaccessible. Alors, la seule façon, c'était que j'arrête de glacer. C'est les planches, je veux pas, c'est pas ce qu'on fait le plus de profit dessus.
Ouais.
Puis, surtout si tu fais pas la fibre de glace, le shaping, vraiment, c'est pas... super rentable. C'est vraiment pour, c'est out of passion que faut que tu sois un shaper, je pense. Puis, là, c'est ça, j'ai commencé à engager un glaceur qui est à 1 heure de où je suis.
Okay.
Alors, sur mes journées de congé, je conduis à 1 heure ici pour, il m'a offert d'utiliser son shaping bay. Depuis ce temps-là, c'est sûr que ça me fait beaucoup de peine parce que j'adorais faire les couleurs et les designs et tout autant que j'aimais shaper.
Et t'en fais pas du tout avec lui?
Je vais en faire une fois de temps en temps quand je demande des choses un peu plus difficiles au glacier. Puis il devient comme un peu overwhelmed parce que lui, il est glacé pour Lost. En Californie, il vient de la Californie, il vient de déménager dans mon coin. Alors, tu sais, il était pas beaucoup habitué avec des tints, beaucoup de couleurs ou des panels et tout ça. Alors, une fois de temps en temps, quand j'ai des glass jobs un peu plus difficiles, je vais glacer dans son shop.
Ouais. Ok. Mais la majeure partie, tu lui laisses.
Oui, okay. Ben, juste parce que aussi j'avais trop de commandes, puis un one-man show, c'était vraiment... Ça me prenait 3 mois faire une planche de start, début à la fin avec mon horaire et tout. Fait que c'était beaucoup physiquement aussi, là.
Mais surtout que t'avais déjà un autre boulot à côté, quand même. Et du coup, aujourd'hui, tu commercialises tes planches
Ben là, je suis dans trois magasins, mais la plupart de mes commandes, c'est vraiment one-on-one. C'est quelqu'un qui va m'écrire soit par mon site internet ou par Instagram.
Et...
Puis certaines personnes aussi des surf shops que je suis dedans en ce moment, ils vont voir mes planches, puis ils vont me contacter après ça.
Oui, et du coup, ça te fait... Parce qu'en 4 jours, ou je sais pas si tu fais ça vraiment à fond pendant 4 jours et tout, mais t'arrives à produire combien de planches à peu près à ce rythme-là?
Ben, je serais capable de certainement faire 10 planches par mois à ce rythme-là, mais pour l'instant, je dois faire en moyenne de 5 planches par mois. C'est sûr que, tu sais, aussi, je me laisse une journée de congé par semaine. Si les vagues sont bonnes, je ne shaperai pas pendant une semaine, puis après. Mais normalement, 2 à 3 mois, le temps d'attente pour mes planches. Mais pendant le temps des fêtes, là en ce moment, faut que j'aille shaper tous les jours. Pas vraiment le temps de surfer pour l'instant. Ça va en roller coaster. Ouais, c'est ça, je vais avoir... C'est peut-être 15 commandes, puis après, pendant un mois, j'ai pas de commandes. C'est pas très constant.
Ouais, bien sûr. Et toi, tu fais tous les styles de planches ou tu t'es un peu spécialisé dans certains domaines?
Je dirais que c'est surtout le single fin pour moi. J'ai commencé à faire plus des shapes alternatives, longboard, des eggs. Puis je fais beaucoup de retro fish, un peu plus épais. Je suis pas quelqu'un qui surfe beaucoup de high performance shortboard, je dirais. Alors je shape qu'est-ce que moi j'aime la plupart du temps. Puis quand un client me demande une planche, admettons un 5-5 thruster, normalement je recommande un shaper qui fait seulement de ça, tu sais.
Ouais.
Je pense que j'essaie de rester comme dans mon lane.
Ouais,
jusqu'à temps que j'aie un peu plus de feedback sur certaines shapes que j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec des high performance. C'est tellement un wide, une variété tellement énorme dans les planches, longueur, shape, tail. Les nez, tout ça, c'est déjà beaucoup d'options. Ça fait 2 ans depuis que j'ai shapé mon premier comme swallowtail, comme un fishtail mid-length, qui est comme dans les 7 pieds 5, avec le single fin, ce qu'on voit un peu moins. J'aime ça faire des swallowtails sur des planches qui sont pas nécessairement en bas de 6 pieds. Puis tester les réponses. Je dois en avoir fait 3 de ces single fins comme méga fish. Puis je les aime vraiment. Alors, j'essaie toujours d'avoir mes amis les essayer, avoir du feedback pour les améliorer.
Tu bosses qu'à la main? Que en hand shape?
Ouais, tout est hand shape, ouais. Ben c'est sûr qu'en Floride, c'est pas très encouragé, mais j'ai appris à shaper en Californie où que le hand shape est très important, traditionnel. C'est pour la culture et l'histoire en arrière du hand shape, je pense que c'est le 100% hand shape est très important. Tandis que quand je suis déménagée ici, beaucoup de personnes, genre... C'est qui sont pas dans la communauté du surf ou qui commencent, savent pas trop la différence entre une planche, la plupart des planches dans les surf shops, puis un 100% hand shape.
Mais les shapers implantés localement en Floride, eux, ils font beaucoup de pré-shape aussi, beaucoup de machines, ou il y a quand même...
Beaucoup.
Oui? Plus qu'en Californie?
Oh, 100% plus, oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gens... je suis un peu plus jeune que la plupart des personnes dans la communauté de shape ici. Je sens que c'est des plus vieux monsieur dans leur 50, soixantaine. Fait que c'est sûr que quand j'arrive, puis je suis comme non, 100%, je handshake tout. Je me suis fait dire plusieurs fois, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, tu perds ton temps. Tu pourrais être beaucoup plus efficace si tu utiliserais la machine. Mais c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire.
Qu'est-ce que tu trouves dans le handshape qui est plus enrichissant que dans la machine?
Moi, je préfère, juste parce que je trouve que c'est plus unique. Toutes les planches que je fais à la main sont tous uniques. Je sens que tu es plus connecté aussi à la planche, avec ton client, de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. J'ai juste pas envie de faire comme de designer sur ordinateur, puis après la faire comme imprimer dans la machine. Ça l'enlève une étape que moi, je trouve que j'adore, de la faire à la main. Je pense que c'est ça, chaque planche est unique quand tu les handshapes, qui est, moi, je pense, une expérience qui est géniale pour, en tant que client, de savoir que, admettons, Tristan m'aurait fait une planche pour moi, qui a handshapé, qui a passé des heures à me faire une planche pour moi, en sachant qu'est-ce que j'aime ou quelle vague que je veux surfer, qu'est-ce que c'est plus spécial. Mais je suis aussi, j'ai appris à shaper en Californie, qui est très 100% handshape.
Ben, je savais pas du tout, tu vois, qu'il y avait une différence dans la culture entre la Floride et la Californie à ce niveau-là, quoi. La Californie, justement, c'est les pionniers et tout du shape, donc t'aurais pu t'attendre à ce que ça s'industrialise vachement et qu'il soit vachement machine. Et de ce que tu me dis, c'est plutôt l'inverse, quoi. Donc c'est assez intéressant.
Ben, c'est aussi surtout les personnes que moi j'ai parlé avec ou que je suis devenue amie avec, c'est des handshapers. J'ai comme pu rencontrer beaucoup de handshapers en Californie.
Ouais.
Alors,
à travers Greg ou...
À travers Greg, à travers Ryan Lovelace, à travers des gens qui surfaient, puis me demandaient des questions de mes planches, puis après devenus amis, puis eux autres aussi faisaient des planches à la main.
Il y a quand même il doit y avoir des shapers qui utilisent la machine et tout, non?
Oui, 100%, je suis sûre que oui. C'est sûr que il y a beaucoup de compagnies, des gros noms qui utilisent la machine 100%. Mais j'ai juste pas été autour de ça en Californie.
C'est pas ça qui t'attire, quoi.
Exactement, ouais.
Ok. On peut parler peut-être un peu de tes planches?
Ouais. Pour l'instant, j'ai un egg model qui est comme un 7-4, qui est comme un mid-length single fin. Après, j'ai un pig model, puis un nose rider. Puis après, j'ai mon retrofish. Pas mal, la plupart des planches que je fais, ça tombe là-dedans. Une fois de temps en temps, les gens me demandent des différents templates. Je mélange les templates que j'ai déjà, puis je crée une nouvelle forme pour eux.
Ouais, tu adaptes tu les combines, quoi. Est-ce que tu veux parler aussi des influences que tu as eues pour concevoir ces planches?
Ben, Ryan Lovelace m'a beaucoup influencé dans le single fin mid-length. À ce temps-là, en Californie, je surfais beaucoup son modèle V-Bowls, que j'adorais. Pour les right point breaks, c'était vraiment... J'adorais cette planche. Mais je l'ai comme faite un peu plus ronde, puis un peu plus egg. Que le V-Bowls, puis aussi je mets beaucoup plus d'épaisseur sur certaines planches, okay. Surtout dans le nez. Greg me disait toujours ça servait à rien de mettre plus de foam, de garder le nez plus épais, mais ça dépend vraiment avec les clients que j'ai. Normalement, c'est quand même un nez qui est comme un peu plus épais, puis quand même pas fin comme Rails. Puis normalement, le V-bottom sur le 7-4 egg que je fais. Vraiment un contour traditionnel que j'aime avec le single fin.
OK. Et tu dis que l'épaisseur du nose, ça dépend des clients, c'est-à-dire?
Le poids, la grandeur de quelqu'un, ouais. souvent, c'est ça. C'est sûr que je mets plus de tail rocker parce que en Floride, on a plus des beach breaks.
Ouais.
Alors, ça devient un peu plus hollow. Alors, le modèle mid-length que je fais en Floride a beaucoup plus de tail rocker que la planche que je ferai en Californie pour un point break.
T'as remarqué des différences entre les habitudes, on va dire, des surfeurs et shapers en Californie et les habitudes des shapers en Floride, comme tu disais par exemple?
100%. Je pense à un shaper, admettons Bing Surfboards en Californie. Ils font des longboards très, très pesants comparé à un longboard qui va être fait par Ricky Carroll, qui est comme un des plus grands shapers en Floride. Leurs longboards sont complètement différents. C'est juste différentes plages. En Californie, les vagues sont vraiment longboard friendly. Tandis qu'ici, c'est pas vraiment le temps de faire du nose ride à moins que les vagues sont très bonnes.
Ouais.
Fait que tu surfes la planche peut-être plus au tail qu'en Californie où tu peux vraiment marcher avec beaucoup de stabilité sur ta planche. Mais la vague le permet beaucoup plus.
Tu disais par exemple plus de tail rocker, mais il y a d'autres...
Ouais, ben moi c'est ça, je mets un peu plus de nose puis de tail rocker sur mes longboards, puis je les glace beaucoup moins pesantes en Floride que en Californie.
Mais ça joue pas trop sur leur pérennité?
Non, j'ai même eu une cliente justement il y a 2 semaines m'a écrit que un auto avait roulé sur sa planche puis. Elle m'a envoyé une photo de sa planche, puis elle était comme neuve.
Ah oui?
Ouais, la solidité, je pense ça aussi, ça. Il y a différents moyens de mettre certaines glaces ensemble qui est aussi solide que du 10-11. Tu peux jouer avec différents 4 ou 6, puis 6 ou 6. Ou faire du 10-11 ou du 8-11. Puis j'essaie toujours de mettre ici un tail patch pour protéger la surface où la plupart des surfeurs marchent dessus.
Ouais, bien sûr. Et ça, du coup, c'est toi qui donnes ces directions à ton glaceur maintenant ou c'est plutôt lui qui prend ces décisions-là?
C'est moi. Dans le fond, quand je finis une planche, je remplis comme un form avec toute la cédule de fibre de glace que j'aimerais pour la planche.
À chaque modèle, tu l'adaptes ou t'as quand même...
C'est pas mal constant. Ce que tu peux aussi changer avec la pesanteur d'une planche, c'est la densité du foam qu'on peut jouer beaucoup. Fait que des fois, je vais aller densité un peu plus légère parce que je veux faire un glace un peu plus pesant. Quand je veux un peu plus de poids, normalement, pour mes planches à moi, personnelles, j'essaie de faire du dark wood ou de quoi un stringer un peu plus large. Puis je trouve que c'est aussi très beau, un custom stringer avec du bois plus foncé un peu.
Tu joues beaucoup, toi, avec... Avec la latte, comme ça, tu les adaptes beaucoup ou tu restes plutôt sur des pains de mousse standards habituellement?
Je fais beaucoup de custom pour les mousses. J'aime ça que mes planches aient souvent du bois un peu plus foncé. Je trouve ça fait, surtout pour des tintes, je trouve ça super beau. Le régulier, c'est un huitième de basswood normalement. Je suis comme, en ce moment, j'aime vraiment avoir comme un petit détail dans le stringer qui fait comme sortir la planche de l'ordinaire. Des fois, j'ai fait plus large aussi, tout dépendamment des clients, la pesanteur aussi, puis le flex de la planche. C'est sûr que ça, ça l'affecte ça aussi. Pour des longboards, ça me dérange pas d'aller un peu plus wide, un peu plus pesant, parce que c'est pas vraiment une planche que je recherche du flex. Pour un traditional longboard que je fais, comme le Nose Rider, la pesanteur, ça aide aussi pour la stabilité de la planche.
Au niveau de tes modèles, tu peux un peu en reparler un peu plus dans le détail de chaque modèle?
Oui, mon pig, c'est comme vraiment un pig traditionnel. Le point le plus large est à peu près 5 pouces en arrière. Fait que les hanches de la planche sont poussées vers l'arrière. Ce que j'aime vraiment ce modèle pour la Floride, parce que pas nécessairement que tu as beaucoup le temps de marcher envers le nez. C'est un modèle très facile à tourner très rapidement. Puis je fais un rail assez mince qui coupe un peu, surtout avec le windchop, comme je disais au début de
Ouais.
l'entrevue, qui est un peu plus saccadé comme surf, tandis que mon nose rider est plus pour une vague qui est un peu plus groundswell, mais on peut toujours surfer. C'est les deux surfent dans toutes les conditions, mais le modèle est fait plus pour avoir la stabilité jusqu'au nez.
Ouais.
Alors, des rails un peu plus 50-50 remplis. Les rails sont parallèles
Ouais.
avec le nez qui est un peu plus élargi que le pig. Puis avec le traditionnel le concave en dessous du nez qui aide beaucoup pour
Que tu
le
fais pas
nose
sur
riding.
le, tu le fais pas sur le pig.
Des fois, je le fais sur le pig, mais pas nécessairement. Non, normalement, je le fais pas sur le pig.
Il est comment d'ailleurs le bottom sur ton pig du coup?
Ça va être un V-bottom qui commence à peu près 10 pouces en bas de mon mi-point.
Ok.
Puis après, vraiment rolled.
Et du coup, au niveau du rocker, t'as les mêmes rockers sur les deux planches ou pas du tout? Comment ça se passe?
Mon nose rider est beaucoup plus plat. Moins nose rider, de nose rocker, puis un peu de tail rocker, mais minime, tandis que le pig a beaucoup de tail rocker, puis un peu plus de nose rocker sur le pig.
Et c'est la planche qu'on te commande le plus quand on te commande des longboards, du coup, chez toi?
Je dirais qu'en Floride, le pig, c'est le plus populaire. Je dirais que la plupart des gens qui me contactent, ils veulent le nose rider juste parce que c'est vraiment une planche très traditionnelle. Puis la plupart des gens ont entendu parler du nose rider. Puis quand je leur parle du pig, ils sont comme ah ben peut-être ça serait mieux pour les vagues ici. Puis mais il y a des gens, c'est beaucoup de gens dans la communauté du surf, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que normalement, c'est le nose rider pour les personnes un peu plus expérimentées qui sont habituées d'être sur le nez.
Tes autres modèles, donc t'as un leg, tu le dédies plutôt pour quel type de surfeur ou de vague, ou comment tu le différencies du longboard en fait?
Il y a un rounded pintail. Alors, le tail est complètement différent. Je fais un V quand même prononcé dans le tail. Sur le contour. Et puis, normalement, je fais quand même pas trop épaisse les rails. Je garde ça peut-être 60-40. Alors, tu as le hard edge à l'arrière, puis un flat spot au milieu du bas de la planche. Quand les vagues sont pas nécessairement énormes, pas petite non plus, qui est comme un peu une journée comme plus mid-size. Cette planche-là est géniale. Je la fais dans 6 pieds 5, entre 6 pieds 5 puis 7 pieds 5 de modèle. C'est vraiment une planche comme un peu plus le fun quand c'est un peu plus gros, qui permet un peu de faire des plus gros cutbacks. Juste un différent type de surf. Avec cette planche,
Oui, bien sûr.
puis un peu plus d'épaisseur ou le nez pour avec le flat spot en bas, ça t'aide vraiment à aller un peu plus vite dans la section quand tu mets un peu plus de poids vers ton pied à l'avant pour faire des sections un peu plus rapides.
Et ton rocker, du coup, sur leg, il est...
C'est assez plat, un peu plus de nose rocker sur lui. J'essaie de garder la tail un peu, je dirais
Assez.
pas flat, mais pas loin.
Et après, il reste du coup le fiche dont on n'a pas parlé.
Oui, le fish, encore, c'est un single qui passe à travers tout que je fais beaucoup, qui relâche un peu plus plat dans l'arrière. J'aime ça normalement si je peux faire des kills qui sont glass on dessus. Je sais pas tout le monde veut l'avoir.
Je suis assez curieux parce que t'as typiquement le fish, c'est vraiment la planche de twin fin. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire en single fin?
Ça, c'est le on parle du kill que je fais en bas de 6 pieds. Normalement, le single fin que je fais, je le fais vers 7 ou 7 pieds et plus. Ben, j'essayais juste d'expérimenter avec différents contours en bas. Le V-bottom avec un single, ça marche super bien avec le egg. Je me demande comment ça fonctionnerait avec le swallow. Alors, j'ai essayé, puis j'ai vraiment bien aimé pour la relâche avec le swallow tail.
Et le rocker est similaire entre l'egg et le megafish?
Le megafish a plus de nose rocker que le egg. Puis, il y a un peu plus de tail aussi. Puis, lui, ben c'est ça, c'est un single à travers le bas. Puis, les rails sont, je dirais, 80-20. Beaucoup plus épaisse que la plupart des planches. 2 pouces et 3 quarts à 3 pouces d'épaisseur. C'est aussi un peu plus stable pour se surramer. C'est plus facile de rentrer dans les vagues. Mm-hmm. Surtout ici, en Floride, qu'on n'a pas tant de pouces, à moins qu'on ait un ouragan. Dans les vagues, c'est beaucoup plus facile, je pense, de rentrer dans une vague en Californie que dans le windshop de la Floride.
Il y a des shapers qui t'influencent aujourd'hui encore?
Oui, ben c'est sûr que Ryan a été une grosse influence, Ryan Lovelace, au début, parce que Greg m'amenait dans son shop beaucoup, puis il me disait de le regarder shaper, puis c'est sûr que j'ai essayé beaucoup ses planches, puis j'ai adoré. J'adore ce que Ryan Birch fait, j'adore ses planches, j'en ai surfé une couple, puis j'ai adoré. Après ça, Tristan, j'adore ses planches. J'en ai jamais surfé, mais juste j'adore ce qu'il fait, puis comment la recherche qu'il fait, puis l'expérimentation qu'il fait pour ses planches, c'est incroyable. J'ai commandé son livre, son expérimentation avec les halls, puis toute l'information qu'il a. Tristan, c'est incroyable ce qu'il fait. Puis en Floride, je dirais Ricky Carroll. M'influence beaucoup. C'est un shaper, un des meilleurs shapers sur la côte est, je pense, des États-Unis. Aussi, j'ai commencé à surfer, puis tout le monde avait des Ricky Carroll. Il fait des excellents longboards. Vraiment, ces longboards sont vraiment fine-tuned, faits pour la Floride. Pas qu'ils fonctionnent pas ailleurs, mais c'est vraiment craftsmanship spécialisé et adapté pour les vagues ici. Il y a tellement différents modèles de longboard. T'sais, Ricky Carroll, c'est quand même un monsieur de, je dirais, 50 ans et plus. Alors, je pense qu'il shape, ça fait au-dessus de 30 ans. C'est sûr qu'il y a différents modèles. Puis, il y a beaucoup de pro-surfeurs de la Floride qui surfent ces longboards. Il y a différents modèles, mais je dirais ces rails sont incroyables. Ses tails aussi sont très minces, puis le nez est souvent très mince aussi. Juste le foil de toutes ces rails avec le contour du bas. Les rails sont toujours, ils fonctionnent toujours en fonction du tail qu'il y a sur la planche et du bottom. Ils sont juste customized par chaque modèle. Ouais.
OK. J'ai pas vu ça dans ton travail, mais est-ce que tu bosses un peu sur le côté environnemental des planches ou pas vraiment?
Je viens juste de commencer à m'informer. Ça doit faire 3-4 mois. J'ai contacté une compagnie française, Polyola, puis juste avoir des conversations de c'est quoi les options. Puis c'est sûr que éventuellement j'aimerais travailler avec des matériaux un peu plus écologiques et moins nocifs pour l'environnement, mais aussi pour ma santé, puis la santé des autres. C'est définitivement une direction dans laquelle j'aimerais aller, mais c'est aussi c'est pas très accessible.
Ben surtout Poliola, du coup, en Floride, ils sont implantés déjà.
Ben, ils m'ont offert qu'ils allaient envoyer un container en Californie, mais je suis pas en Californie, alors
ah oui.
C'est ça. Fait que je pense qu'ils travaillent en ce moment pour avoir quelque chose à New York. Mais encore là, New York,
ouais, c'est pas
c'est
non plus
pas
à côté.
Très proche. C'est ça.
Faut que tu trouves plein d'autres shippers floridiens qui veulent commander avec toi pour faire un
Exactement.
conteneur, quoi.
Exactement. Fait que j'essaie de convertir les shippers que je connais à peut-être penser un peu plus écologique. C'est pas la réponse n'est pas super intéressée.
Et en plus, Poliola, enfin moi, j'ai vu que de bons retours là-dessus,
Ouais, ben.
mais j'ai aussi entendu régulièrement de la part des shippers que en fait les clients ils buggent juste sur le fait que ce soit marron, quoi. Et tu te dis, mais c'est
Jaune
tellement
comme
dommage, quoi. Enfin,
ouais.
c'est pas un argument, mais en même temps c'est vrai que psychologiquement on est tellement habitué aux planches blanches et tout. Et puis même, tu
Moi,
vois,
je
si tu
trouve.
veux travailler des tintes, je sais pas comment tu fais sur des planches en polyola par exemple.
Ouais, ben c'est ça, je me demandais aussi. Mais moi, j'ai écrit à Tristan pour lui demander si lui avait essayé. Puis il me dit, super, honnêtement, j'ai bien aimé. Qu'il voyait pas une grosse différence, sauf que c'est sûr que ils sont jaunes.
Et en Floride, tu vois des évolutions comme ça, là, des matériaux et tout, nouveaux, des choses qui se passent un peu?
Honnêtement, pas vraiment. Vu
Ok.
que, comme je disais au début, c'est vraiment, c'est comme le handshipping est un peu disparaît tranquillement où je suis, dans mon coin. C'est sûr que plus au milieu de la Floride, qui est comme le Central Coast, c'est plus accessible. Je suis sûr, plus de matériaux. C'est là que les pains de mousse, la compagnie de US Blank est. J'ai pas encore entendu parler beaucoup d'écologie en Floride, honnêtement. C'est vraiment moi qui dois faire la recherche, car la plupart des gens que j'ai demandé ils m'ont dit que ça servait à rien, car le plus écologique, c'est de faire d'une planche qui est durable. Qui est vrai, mais je suis sûre qu'il y a une façon de faire de quoi de plus écologique avec des produits un peu plus écologiques, en gardant la durabilité d'une. Ben, j'espère. Puis les blanks coûtent déjà très cher, juste
Ouais.
US blanks. Fait que combien on paye pour les pains de mousse dans un container de la France? Fait que je sais pas si c'est même c'est worth it pour Poliola de faire ça.
Si, il y a quand même une
Ouais.
question, je suis bête. Une question qui est pourtant assez évidente. Qu'est-ce que ça fait d'être une des seules femmes qui shape dans ce milieu quasi exclusivement masculin?
Pour moi, ça a juste vraiment été, je pense, dans mon intérêt d'être, c'est une des seules à place d'être un des gars dans les milliers de gars qui shape. Je pense que ça m'a juste démarqué, à m'aider vraiment à me démarquer parce que je pense que durant le COVID, il y avait vraiment un grand mouvement, tu sais, des femmes qui supportent des women small business. Ça m'a aidé, 100%. C'est sûr que, tu sais, maintenant, ça m'affecte pas autant que ça m'affectait quand j'ai commencé. C'est, je pense qu'au début, en Californie, j'avais des garçons qui me demandaient où est ta planche. Puis je leur disais, je l'ai faite moi-même, puis ils me croyaient pas.
Ah oui.
Ouais, mais tu sais, peut-être une fille m'aurait pas cru non plus. Puis je pense peut-être aussi me faire prendre un peu plus au sérieux au début. Il y a beaucoup de shippers qui avaient de la misère à me prendre au sérieux. Je sais que c'était un peu plus intimidant personnellement pour moi d'apprendre d'un gars que d'une fille qui a peut-être les mêmes difficultés avec les. T'sais, oui, je suis un peu plus petite. Je n'étais pas habituée nécessairement. D'avoir utilisé des machines, c'est comme un planer ou une scie ou mais tu sais, je pense pas que c'est non plus à propos du sexe. Puis là maintenant, je suis probablement plus manuelle que mon père. Ça, je pense pas que c'est ça rapport au sexe, mais
Et maintenant que t'es un peu plus implanté, expérimenté et tout, tu ressens une différence de traitement ou pas du tout?
Ben, c'est sûr que j'ai souvent le message, genre, je veux que ça soit une fille qui shape ma planche. Genre, je t'ai découverte, t'es une des seules female shapers que j'ai vues sur Internet, quand j'ai fait ma recherche, puis j'aimerais avoir une planche. Mais aussi, j'ai peut-être le désavantage que certains garçons qui veulent pas nécessairement une planche d'une fille. J'ai peut-être un avantage, mais peut-être un désavantage qui est comme égal à... Je ressens pas vraiment de traitement spécial.
Ouais, mais en tout cas, t'as pas senti non plus de discrimination ou quoi, dans le milieu, quoi.
Non, heureusement, je pense que je me tiens avec un cercle de très bonnes personnes qui sont assez ouverts d'esprit, puis qui sont, tu sais, quand j'ai commencé à shaper, beaucoup de male shapers étaient très supportive. C'est vraiment, allez, vas-y. Tristan aussi, tu sais, Tristan entre eux. Greg, qui est un garçon qui m'a appris à shaper aussi, qui a partagé cette passion, qui a cru en moi. C'est ça, Tristan
Ok.
était très... Après aussi, quand j'ai commencé, m'écrit un message, genre, c'est super ce que tu fais, Catherine, genre, génial. Puis, quand j'ai des questions aussi, tout le temps très gentil, puis pas de problème de m'aider à
Ouais.
répondre à des questions.
Il y a d'autres shapeuses en Floride?
Non, pas à ce que je connais, mais je sais qu'en Californie, j'avais des amis qui shapaient aussi. Mon amie Rachel Aventura, il y a aussi... Surfcraft à San Diego, puis Ashley Lloyd à Santa Cruz. Fait que je dirais trois que je connais
Okay.
par nom.
Ouais. Je connais Valérie Duprat, qui est un...
Ah oh oui, aussi Valérie Duprat, oui.
qui est française, si je dis pas de bêtises.
Non, elle est française, je pense, oui.
Ouais.
Puis elle est à San Diego. C'est pas beaucoup comparé à combien de shapers qu'il y a, mais
Ben ouais.
c'est déjà, ça commence. Vraiment, j'ai une petite fille de 13 ans qui m'écrit, ça fait des années, qui a commencé à shaper dans son garage avec ses parents au New Jersey. C'est super encourageant, moi. C'est sûr, je suis sa plus grande fan. C'est génial.
Au niveau de ta clientèle, du coup, c'est aussi une clientèle qui est assez féminine ou pas vraiment?
Je dirais que 60%, peut-être 65% féminine, puis le reste masculine.
Ok.
Souvent, c'est une fille qui va m'écrire, puis après son copain va
Ouais.
voir une planche. Puis après, aussi dans les, en ayant mes planches dans les surf shops que j'aime bien, les gens qui travaillent au surf shop que mes planches sont, ils font un bon travail à vendre les planches à pas juste c'est seulement les filles. Faut aussi être quand même. Je pense que quand même je prends de la place, puis j'ai pas peur de demander puis de prendre ma place. Fait
Ouais.
que je pense que ça c'est important aussi en tant que femme, c'est de prendre ta place.
Bon bah écoute, je crois qu'on a fait un bon retour.
Parfait. Merci
Ça
beaucoup
marche?
d'avoir pris le temps.
Bah merci à toi, surtout d'avoir pris le temps. Écoute, à bientôt du coup.
À bientôt.
Salut.
Bonne soirée.
Ciao.
Bye.
Et voilà pour notre 7e épisode consacré à Catherine Girard. Merci Catherine d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé ton histoire avec nous. Rendez-vous sur son Instagram, Catherine Girard Surfboard, et sur son site, catherinegirardsurfboards.com, pour découvrir tout son travail et suivre son actualité. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram shape.ology pour être au courant des prochaines sorties et découvrir les photos et vidéos de l'épisode. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous trouverez l'ensemble de nos épisodes, mais aussi un lexique, un annuaire des shapeurs français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.